Merci à vous si vous nous rejoignez maintenant dans l'actualité des idées. Aujourd'hui et dans cette deuxième et dernière partie de la Grande Table, le peuple avec la philosophe Chantal Mouffe, icône de la gauche radicale, figure du post-marxisme, professeure à l'université de Westminster, belge installée à Londres dans l'illusion du consensus, écrit il y a 10 ans et traduit en français l'année dernière au moment de Nuit Debout, celle qui a conceptualisé le populisme de gauche remettait en cause la vision néolibérale d'une démocratie sans affect et sans conflit. Proche des mouvements sociaux, des indignés à Occupy Wall Street, Nuit Debout également et des partis qui en sont nés, elle publie « Construire un peuple pour une radicalisation de la démocratie » avec Inigo Errejón, l'un des fondateurs de Podemos aux éditions du Cerf. Une leçon majeure de politique, une réflexion stratégique essentielle pour celles et ceux qui entendent bâtir un projet émancipateur, nous en dit le politologue Gaël Brustier en introduction. En quoi l'émergence d'une force politique comme Podemos change-t-elle la donne? Comment ce mouvement s'est-il construit à partir d'un effort de théorisation hors normes? En Espagne comme ailleurs, en Europe, la réinvention de la démocratie passe-t-elle par sa radicalisation? Autant de questions qui sont soulevées à travers cet échange entre la philosophe et l'homme politique aujourd'hui. Bonjour à vous Chantal Mouffe.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes fière de vos petits, de ce mouvement Podemos qui a quand même pris de l'ampleur ces dernières années en Espagne et qui s'est beaucoup inspiré de vos thèses, de tout votre travail théorique conceptuel que vous avez mené depuis un certain nombre d'années, notamment depuis les années 80, depuis Hégémonie et stratégie socialiste, un livre publié il y a plus de 20 ans. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont bien grandi?
Mais oui, je dois dire que pour moi, ça a été vraiment extraordinaire de me rendre compte que les idées qu'on avait développées au niveau théorique ont été mises en pratique par un mouvement comme Podemos qui, comme vous l'indiquiez, a très rapidement, en fait, ce mouvement en 3 ans est devenu le troisième parti le plus important en Espagne. Il est d'ailleurs pratiquement, sur le point de devenir le deuxième parti, parce que là, il y a une crise terrible du Parti Socialiste. Donc, je veux dire, c'est vraiment, c'est devenu en tout cas un phénomène en Espagne. Alors, c'est vrai que ce qui est important, et c'est ce que nous discutons principalement dans le livre, c'est de montrer comment, en fait, derrière le succès de Podemos, il y a une réflexion théorique très importante. Parce que les gens ont pensé, l'émergence de quelque chose. Oui, mais ils ont, par exemple, Inigo Errejón, qui est le cofondateur, mais aussi le principal théoricien de Podemos, a été très profondément influencé par les idées que nous avons développées, Ernesto Laclau et moi-même, dans Hégémonie, stratégie socialiste. Et en fait, ils reconnaissent que toute la stratégie qu'ils ont développée là-bas n'aurait pas été possible si ce n'avait pas été dans le cadre justement de cette réflexion, parce que nous défendons là-bas une nouvelle conception de la politique. Je crois qu'il y a toute une série de points qu'on ne peut pas comprendre sans voir que nous mettons en question l'idée, une conception que j'appelle rationaliste, essentialiste de la politique. La politique, pour nous, il y a 3 concepts disons, principaux dans Hégémonie, c'est le concept d'antagonisme, la société est divisé, il y a toujours des antagonismes. Le concept d'hégémonie, l'espace social est un espace discursif qui est construit à travers la pratique hégémonique. Et le troisième élément qui est fondamental, c'est le fait que les identités ne sont jamais données, elles sont toujours construites et qu'elles impliquent un élément très important d'affectivité, d'identification. C'est toujours la cristallisation d'affect. Alors, c'est à partir de ça qu'on peut comprendre la stratégie qu'a développée Podemos.
En s'institutionnalisant, en entrant dans le jeu politique, pour vous, Podemos n'a pas trahi ses idées, ce que vous aviez développé?
Non, parce que justement, ce que nous défendions, c'est l'importance d'une stratégie que nous appelons, enfin, partant de la réflexion d'Antonio Gramsci, une guerre de position. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, au contraire d'une certaine gauche radicale qui considère qu'il faut une stratégie de désertion, d'exode, des institutions, nous avons toujours défendu, il faut s'engager dans les institutions pour les transformer profondément. Et c'est ce qu'a fait Podemos. Mais bien entendu, on insiste aussi sur le fait que ce ne peut pas être uniquement une lutte dans les institutions. Il faut toujours aussi avoir un pied dehors dans les mouvements sociaux et qu'en fait, la stratégie que nous appelons de radicalisation de la démocratie implique d'établir une synergie entre le niveau horizontal, donc les mouvements sociaux, et le niveau vertical qui est la partie, disons, plus traditionnelle de s'engager dans les institutions, dans ce que Podemos a appelé une force de frappe électorale. Donc, ils ont parfaitement mis en pratique cette nécessité de synergie entre l'horizontal et le vertical qui est, à mon avis, centrale pour penser la possibilité de radicaliser la démocratie.
Changer la donne de l'intérieur, c'est aussi d'ailleurs ce que vous défendez, on va en reparler, du côté de l'Europe, c'est-à-dire que vous n'appelez pas comme certains candidats aujourd'hui à la présidentielle, vous n'envisagez pas une sortie de l'Europe, un retour aux frontières et un certain souverainisme pour pouvoir justement retrouver cette capacité d'action et d'adaptation, mais vous appelez à changer effectivement les choses de l'intérieur. Antoine Mercier.
Oui, alors j'ai besoin d'un petit cours de rattrapage justement pour ce passage de la théorie à la pratique. Parce que vous nous avez donné les trois principes qui étaient, disons, essentiels dans votre œuvre, antagonisme, hégémonie et identité identité construite.
Donc, et, rôle des affects.
Voilà, rôle des affects. Donc, ensuite, vous nous parlez, vous dites tout cela, et ça a été mis en application avec Podemos. Est-ce que vous pouvez nous préciser, peut-être pour qu'on puisse toucher du doigt plus concrètement, le passage de comment ces concepts ont été traduits, par exemple, l'antagonisme, par exemple, l'hégémonie et puis l'identité aussi.
Par exemple, le premier point, c'est la question de l'antagonisme. C'est-à-dire, ça veut dire que la société est divisée, que la politique doit constituer à établir une frontière. Donc ça, c'est fondamental dans nos conceptions de la politique. C'est établir une frontière. Alors, cette frontière peut être... Donc, en fait, une frontière entre le « nous » et le « eux ». Parce qu'en politique, on est toujours à voir avec des identités collectives. Hein. Donc, c'est toujours la construction d'un « nous ». Et ça requiert la définition d'un « eux ».
Alors, comment on a fait avec Podemos?
Non, mais Podemos, justement, ils ont établi cette frontière de manière populiste. Hein, parce que établir la frontière de manière populiste, ça veut dire que le nous, c'est ceux d'en bas et le eux, c'est ceux d'en haut. Bon, des points fondamentaux de la stratégie de Podemos, ça a été de dire nous, on représente le peuple contre la casta, hein, l'establishment. Et en fait, toute cette leur lutte a été justement une lutte de créer, de construire un peuple qui se définit en opposition à ceux d'en haut, la caste. Donc là, il y a un premier point. Le deuxième point, c'est qu'une stratégie hégémonique de construction, c'est-à-dire justement, ils ont insisté beaucoup sur le fait que le sens commun qui existe à un moment donné, c'est pas quelque chose qui représente des intérêts naturels, mais que c'est toujours quelque chose qui est construit, qu'il faut justement construire de nouvelles identités, construire, et ça, c'est à travers des pratiques que nous appelons de pratiques hégémoniques. Bon, ça, ils l'ont mis aussi en pratique. Et l'autre élément, l'élément du rôle des affects, ça, c'est quelque chose que Podemos entend parfaitement bien. Je veux dire, parce que justement, ils ont fait des choses vraiment très, très intéressantes, très novatrices dans le domaine politique, à partir justement de la reconnaissance qu'il faut pouvoir mobiliser, à ce que j'appelle mobiliser les passions. Et ça, Podemos a eu vraiment un succès énorme dans ce domaine-là. C'est ça qui explique qu'ils ont compris ce que c'est que la lutte politique. Hein. Donc, établir une frontière entre nous, eux, et mobiliser les affects. Donc ça, je crois que c'est vraiment l'application. Enfin, attention, je ne prétends pas que nous sommes uniquement les seuls à avoir inspiré Podemos. Hein. Je crois que c'est une source d'inspiration importante, mais enfin, c'est pas la seule. Je ne veux pas non plus revendiquer tout comme étant le produit de notre livre.
Dans Construire un peuple, Iñigo Errejón de Podemos le rappelle d'ailleurs, ce slogan de Podemos en 2014, quand est-ce la dernière fois que tu as voté plein d'espoir? C'était ce slogan qui était mis en avant sur cette question de la mobilisation justement des passions, voire des affects, avec l'appel au vote utile en France, dès le premier tour, là justement, on est loin de mobiliser les passions.
Ah oui,
c'est l'anti-passion.
Là, vraiment.
C'est un tue-l'amour.
Oui, et surtout, ce qui est vraiment frappant en France, c'est que justement, plutôt que de construire une frontière, hein, par exemple, la politique de Macron consiste justement à dire il n'y a pas de frontière. Parce que là, je voudrais ici expliquer quelque chose que les gens ne comprennent peut-être pas. Parce que c'est vrai que Podemos, ils ont refusé à s'identifier en termes de droite et de gauche. Bon. Alors, à première vue, on pourrait dire, ah bon, mais c'est la stratégie de Macron. Sauf que, en fait, dans le cas de Macron, ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières. Hein, finalement, la droite, la gauche, on va se mettre ensemble. Tandis que Podemos, quand ils disent on ne veut pas s'identifier avec la droite et la gauche, ça veut dire qu'ils ne veulent pas construire la frontière de la manière dont elle a été construite traditionnellement, comme étant, disons, centre-droite, centre-gauche. Ils veulent construire une frontière, mais ils veulent construire la frontière en termes populistes. Le peuple contre la casta, contre l'establishment. Donc ça veut dire que ce n'est pas du tout. Hein, il y a une énorme différence.
Mais
là-bas.
Surtout chez Emmanuel Macron, il n'y a plus de conflit. Or, vous dites le consensus anesthésie la démocratie. Une société se structure autour des relations de pouvoir. La politique vit du conflit. Elle se construit dans l'adversité. En quoi, justement, la figure macronienne, ce candidat du consensus et du rassemblement, vous paraît pas tenable politiquement?
Écoutez, en fait, pour moi qui vit encore depuis très longtemps en Grande-Bretagne, Macron, c'est l'expérience de Tony Blair, le consensus au centre. C'est vraiment un retour à un type de politique qui maintenant, on a vu ce que ça a construit en Grande-Bretagne. Je crois que, par exemple, il est évident que le Brexit et toute cette mobilisation des passions justement autour du Brexit, c'est quelque chose qui a été créé par l'idée que il y a plus de frontières entre la droite et
c'est
la gauche.
C'est le contre-coup, vous voulez dire.
C'est ça. Donc c'est un produit et je crois que c'est très très dangereux. D'ailleurs, dans l'illusion du consensus, donc il y a en fait 11 ans, je critiquais déjà l'idée qui était l'idée centrale de la troisième voie de Tony Blair, que maintenant, il n'y a plus d'antagonisme, on était tous classe moyenne, on allait pouvoir s'entendre, et que c'était un progrès pour la démocratie. Je disais, mais non, ce n'est pas un progrès pour la démocratie, c'est un danger pour la démocratie, parce que ça crée les conditions pour justement le développement du populisme de droite. Il y a 11 ans de ça. Hein. Et en fait, je crois que, franchement, mon diagnostic, ça a été prouvé correct, parce que maintenant, 11 ans plus tard, on a beaucoup plus de mouvements populistes. On est vraiment dans ce que j'appelle un moment populiste. Et je crois que ça, c'est vraiment la conséquence du fait qu'il n'y a plus de frontières politiques. Alors, ce que je dirais, évidemment, c'est des prédictions, c'est toujours très aléatoire, mais je crois que le danger, c'est que si Emmanuel Macron arrive au pouvoir, ben, ça va créer des conditions vraiment très favorable pour le développement de Marine Le Pen.
Là, elle est déjà là.
Oui, d'accord, mais quand je parle de développement, je veux dire pour qu'elle arrive au pouvoir, parce que les prochaines élections.
Mais comment vous expliquez ce paradoxe, pardon, juste Antoine, pour comprendre, parce qu'en même temps, la candidature d'Emmanuel Macron, et c'est comme ça que lui se positionne, est aussi présentée comme un rempart aujourd'hui au Front National et à ce populisme de droite que vous craignez d'une certaine manière.
Oui, mais attendez, là, quand on parle de rempart, il faut distinguer entre. Bon, c'est vrai que la candidature d'Emmanuel Macron peut empêcher la victoire de Marine Le Pen au second tour. D'accord. Mais si on pense plus sérieusement l'évolution de la politique, est-ce que ça veut dire que ça va signifier, disons, un arrêt dans la progression de Marine Le Pen, ou est-ce qu'au contraire, ça ne va pas créer des conditions favorables pour que ce mouvement se développe et puisse arriver au pouvoir aux prochaines élections? Moi, c'est là où j'ai vraiment une préoccupation. Parce que je crois que l'idée que la politique, franchement, la démocratie consiste à ne pas avoir de frontières, à ne pas de mobilisation, ça, c'est vraiment très dangereux pour la démocratie. C'est pour ça qu'en fait, je crois que finalement, et bon, ça c'est une des thèses que je défends dans le livre avec Inigo, la seule façon de lutter contre le populisme de droite, c'est le développement du populisme de gauche. C'est pour ça que je disais il y a un moment qu'en fait, je crois que la meilleure façon de lutter contre le développement de Marine Le Pen ici en France, c'est de développer, de suivre le modèle de Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, c'est ça. C'est pas du tout Macron qui va empêcher le développement du populisme de droite de Marine Le Pen, c'est au contraire la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon.
Alors quand même, il faut que vous expliquiez la différence, parce que vous dites Marine Le Pen en France comprend bien mieux la nature de la lutte politique que la plupart des progressistes. Par exemple, ils comprennent la formation des identités collectives, que la politique consiste à construire un « nous », ce que vous avez dit tout à l'heure. Ils comprennent aussi le rôle des affects collectifs, ce qu'on appelle les passions, dans la construction d'un « nous », ainsi que l'importance des symboles, la nécessité d'offrir une alternative. Voilà, tout ce que vous dites
oui.
sur
oui,
le
plan. Oui, non, bon, mais c'est évident.
Vous lui donnez une bonne note sur ce plan-là.
Mais écoutez,
qu'est-ce qui
oui,
fait que, essentiellement, c'est absolument différent du populisme de gauche?
Mais écoutez, le populisme, hein, donc ça consiste à établir une frontière entre le nous et l'eux. Mais évidemment, ça c'est un autre point important de notre approche, cette frontière, elle est toujours, c'est quelque chose qui est construit politiquement. Et par exemple, le nous, c'est pas qu'il y a un nous qui existe déjà. Par exemple, j'insiste beaucoup toujours que le peuple, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la population. Le peuple, en tant que catégorie politique, c'est toujours quelque chose qui est construit. Donc Marine Le Pen construit un peuple, mais elle construit un peuple d'une certaine façon. Elle construit un peuple qui va être limité aux nationaux. Et de quelle elle expulse, par exemple, évidemment, les émigrés. Et elle défend, si vous voulez... En fait, je crois que là, je voudrais bien insister là-dessus, parce que je crois qu'il y a vraiment, de la part de la gauche, mais pas uniquement de la gauche, de la politique française, une idée complètement fausse de la façon dont on peut lutter contre Marine Le Pen. Moi, je m'étonne de voir la quantité d'articles forts qui est dédié à essayer de prouver que Marine Le Pen n'est pas républicaine, que Marine Le Pen est d'extrême droite, que Marine Le Pen est fasciste. Donc, en fait, pour établir une espèce de... Ils pensent qu'à travers ça, on va pouvoir arrêter l'attraction de ce mouvement. Donc, construire, si vous voulez, une condamnation morale. Je crois que ce qui est important, la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui votent pour Marine Le Pen? On ne peut pas dire que tous les gens qui votent pour Marine Le Pen sont des racistes, des sexistes, des homophobes. Non, je crois que là, il y a véritablement l'expression de demande démocratique, de demande pour rétablir la souveraineté populaire. Mais cette demande démocratique peut être construite de manière très différente. C'est ça la question. Ce nous, et ça dépend évidemment de qui va être à déterminer le « eux ». Alors, si on met le « eux » comme étant les immigrés, ceux qui empêchent, si vous voulez, les bons nationaux de développer.
Le « eux », c'est aussi, pour Marine Le Pen, le système, oui, l'Europe,
oui,
les dirigeants,
oui, d'accord.
La bureaucratie.
Mais il y a un lien. Hein, le lien, parce qu'en fait, ce qui... je crois que le fondamental pour Marine Le Pen, c'est tout de même le problème de l'immigration. Alors, le problème de l'immigration... Ceux qui en sont responsables sont le gouvernement, ce qu'elle appelait le UMPS. Et évidemment, ça, c'est renforcé par les politiques européennes. Donc, si vous voulez, il y a un lien très, très clair entre le rejet des immigrés et les politiques du gouvernemental et l'Union européenne. Alors, je crois que la façon... Mais ce rejet ce que j'appelle dans l'illusion du consensus, de la pause politique, hein, le consensus au centre, peut aussi être construit de manière différente. On peut établir la frontière politique de type populiste à travers la construction d'un « nous » qui... au lieu d'essayer de limiter la démocratie aux nationaux, va au contraire contribuer à une radicalisation, une extension de la démocratie. Alors c'est là où je crois qu'on peut vraiment distinguer la différence entre ce que j'appelle un populisme de droite et un populisme de gauche. Donc, populisme de droite, c'est un populisme qui va restreindre la démocratie aux nationaux, tandis que populisme de gauche c'est va au contraire avoir une vision beaucoup plus expansive de la démocratie. Et en fait, honnêtement, je suis très préoccupée d'entendre des choses. Dernièrement, j'ai lu dans Mediapart un entretien où quelqu'un disait « Populisme de gauche, c'est un oxymore ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que mettre ensemble le peuple et la gauche est un oxymore? Bon, alors ça, c'est vraiment grave. Hein. Je crois que...
Parce que le mot populisme, évidemment, est chargé péjorativement depuis
oui,
toujours.
Mais ça,
parce
oui,
que ça
oui,
veut
oui,
dire que ce sont les affects, il n'y a
oui,
plus d'élaboration,
oui,
il n'y a plus de
recul. Oui, sauf que vous savez, en fait, dire ça, c'est aussi procéder d'une vision complètement eurocentrique. Hein, parce qu'il est vrai qu'en Europe aujourd'hui, le mot populisme est utilisé d'une manière complètement négative. Mais, par exemple, ce n'est pas du tout le cas en Amérique latine. En Amérique latine, il suffit d'avoir un minimum de connaissances historiques pour savoir qu'il y a eu de grands mouvements populistes de gauche qui ont justement contribué à l'instauration et à la défense de la démocratie. Ou même sans penser à l'Amérique latine, aux États-Unis, par exemple, il y a eu un mouvement populiste très fort qui s'est développé au début du XXe siècle, qui est un mouvement extrêmement progressiste. Donc, évidemment, si on reste dans notre petit cocon européen, on dit « Ah non, mais le populisme, c'est nécessairement quelque chose de réactionnaire. » Ce n'est pas vrai. Le populisme peut être... Écoutez, finalement, le populisme...
Réactionnaire ou démagogique, en fait. Il y a quand même
Oui, oui, mais c'est ça, démagogique, réactionnaire. Alors, je ne veux pas nier le fait qu'il peut y avoir des formes de populisme
parce
qui
que
sont
ça veut
autoritaires.
Quand même dire suivre le peuple.
Oui, attendez un moment. Suivre le peuple. Si vous acceptez ce que je viens de dire avant, le peuple n'existe pas. Le peuple, c'est toujours une construction politique. Donc, il ne s'agit pas de suivre le peuple. Mais ça c'est la conception qu'on trouve souvent, qui s'inspire de l'œuvre de Le Bon et tous ceux qui, il y a un siècle, ont voulu critiquer, si vous voulez, l'idée du peuple. Alors, le peuple, c'est nécessairement des incultes. Bon, c'est un peu... pensons, par exemple, à ce que disait Hillary Clinton, des gens qui votent pour... j'allais dire Macron. Trump, les déplorables. Hein, c'est-à-dire, il y a des classes populaires qui sont, par une espèce d'atavisme, elles sont réactionnaires, elles sont... Non, mais là je crois que c'est... Moi, je m'insurge absolument contre ça, parce que je crois que, franchement, c'est une attitude d'un élitisme complètement répugnant. Les classes populaires, il y a sans tomber sur une espèce de défense, idéalisation des classes populaires, pour les classes populaires, leurs intérêts peuvent être construits de façon qui va au contraire... fomenter des formes xénophobes, mais aussi on peut mobiliser les passions, créer des formes d'identification pour l'égalité, pour la justice sociale. Donc le peuple, ça dépend comment il est construit. Par exemple, dans Hégémonie socialiste stratégie, nous insistons sur le fait que le peuple, c'est toujours le produit de ce que nous appelons une chaîne d'équivalence. Donc toute une série de demandes hétérogènes qui sont unifiées à travers l'idée de peuple. Alors, selon les demandes qui vont être, disons, articulées à travers l'idée de peuple, on peut avoir un peuple qui est justement un peuple progressiste ou bien un peuple qui est xénophobe. Donc, ce n'est pas suivre le peuple, c'est comment est-ce qu'on va... C'est le titre du livre, construire un peuple. Il faut construire le peuple et on peut le construire de façon progressiste ou réactionnaire.
Construire un peuple pour une radicalisation de la démocratie, un livre de Chantal Mouffe en discussion avec Inigo Herreron, cofondateur de Podemos en Espagne, un livre qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Et Chantal Mouffe, philosophe, est notre invitée jusqu'à 13h30.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Sur ce moment populiste, comme vous l'avez appelé Chantal Mouffe, le sociologue Éric Fassin, auteur de Populisme, le grand ressentiment qui vient de paraître chez Textuel, n'est pas tout à fait d'accord avec vous sur la définition à donner au mot peuple et surtout ce qu'on met dedans. Quelle catégorie regroupe-t-elle? Comment faire converger les différents peuples pour construire un peuple? À quel peuple s'adresse le populisme de gauche? Écoutons-le.
Le populisme, c'est un sujet qui se prête à une confusion autour du sens du mot « peuple », mais aussi autour de la division entre droite et gauche. Après tout, on a quelqu'un comme Alain Benoît qui publie un essai qui s'appelle « Le moment populiste ». Et il s'appuie sur Ernesto Laclau. Et il fait référence à Chantal Mouffe, qui l'invite dans sa revue. Et il titre « Droite-gauche, c'est fini ». Eh bien, pour moi, droite-gauche, c'est pas fini. Et il est important de préserver cette distinction.
Est-ce que le peuple a toujours raison, Éric Fassin ?
Le peuple n'a pas toujours raison, mais en même temps, la démocratie, c'est quand même de prétendre donner la voix au peuple. C'est la raison pour laquelle, d'un côté, il faut se méfier du néolibéralisme parce que c'est une manière, en quelque sorte, de se débarrasser du peuple. Je parle du dépeupleur qu'est le néolibéralisme, à mon sens. Mais d'un autre côté, il faut se méfier aussi d'un populisme qui prétend parler au nom du peuple, c'est-à-dire se substituer au peuple. La démocratie, ça n'est pas de se substituer au peuple, ça n'est pas de l'incarner, c'est de proposer des visions du monde, donc de proposer des visions du peuple et d'essayer de rallier à soi un peuple et non pas le peuple.
Alors Éric Fassin, sociologue, auteur de Populisme, le grand rassemblement qui vient de paraître chez Textuel, qui donnait là un entretien à la revue Regard, Chantal Mouffe. Quel peuple? Parce que c'est vrai qu'on évoquait le peuple de Marine Le Pen à l'instant. On pourrait parler peut-être celui aussi de Jean-Luc Mélenchon, qui a rechangé récemment son slogan, la force du peuple, qui s'apprête à faire tourner une caravane dans toute la France autour du peuple. Mais alors quel est ce peuple auquel s'adresse le candidat de la gauche radicale de la France insoumise aujourd'hui?
D'abord, je voudrais dire quelque chose par rapport à Éric Fassin, qui est un ami que j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas d'accord.
Qui est de gauche, peut-être lui aussi, mais pas favorable à un populisme de gauche. Hein,
on a une série d'accords. Hein. Par exemple, je suis d'accord avec lui quand il dit « Pour moi, la droite-gauche n'est pas finie. Pour moi non plus, ce n'est pas fini la droite-gauche. Le désaccord que j'ai avec Éric Fassin, c'est qu'il considère que finalement, cette stratégie, disons, de gauche doit s'adresser principalement aux abstentionnistes. Hein, parce qu'il considère, alors là je ne suis vraiment pas d'accord avec lui, que finalement les gens qui votent pour Marine Le Pen sont d'une certaine façon fondamentalement racistes, homophobes, sont des gens qui sont perdus et qu'on ne doit pas essayer d'écouter leur dire. Il dit d'ailleurs dans le livre, il faut pas écouter leur demande. Il faut pas nous préoccuper pour leur douleur. Moi, je crois qu'il faut se préoccuper pour leur douleur parce que justement là-bas, ce qui est important, c'est de voir que derrière ce mouvement, il y a véritablement des revendications démocratiques, des revendications démocratiques qui peuvent être justement articulées, formulées de manière différente. Donc, on doit s'intéresser aux douleurs de ce peuple pour essayer de le reformuler de manière différente. Et je crois que c'est justement ce que Jean-Luc Mélenchon fait. Jean-Luc Mélenchon ne dit pas du tout « Ah bon, voilà, il y a tous les gens qui votent pour Marine Le Pen, ils sont perdus pour la gauche. » Non, il est sensible au fait que derrière ce vocabulaire xénophobe, parce qu'au fond, Marine Le Pen a réussi à capturer toute une série de demandes démocratiques. Il faut bien reconnaître qu'ici en France, les secteurs populaires ont été abandonnés par le Parti Socialiste. Rappelez-vous Terra Nova qui à un moment, il y a quelques années, disait « Bon, la classe populaire s'est perdue pour nous, ils ne vont jamais voter pour nous, il faut se concentrer sur les classes moyennes et sur les immigrés ». Donc là, je crois que ça a été une erreur fondamentale. Il faut justement s'intéresser, comprendre les demandes de ces classes populaires et les articuler dans un langage progressiste. Et le peuple qu'essaie de construire Jean-Luc Mélenchon, ben c'est justement un peuple qui permette, par exemple, Marine Le Pen va parler à ces classes populaires et elle dit « Oui, mais je comprends vos douleurs, mais vous savez, le problème sont les immigrés. C'est à cause des immigrés que vous vivez cette situation. » Alors, au contraire, Jean-Luc Mélenchon aussi s'intéresse à ce moment, mais dit « Mais le problème, c'est pas les immigrés, le problème, c'est les multinationales, le problème, c'est le néolibéralisme. » Vous comprenez, à partir de ça...
Alors ça, c'est le « E » et oui, lui, construisons-nous à partir de ce « E » là, justement.
C'est la grande différence, à mon avis, entre...
Et je crois il fait revenir les antagonismes
La stratégie de Jean-Luc Mélenchon est exactement ce que j'appelle une stratégie de populiste de gauche, parce qu'il construit un peuple qui est un peuple dont l'ambition politique, c'est la valeur d'égalité, parce que la valeur d'égalité n'est pas présente dans le discours de Marine Le Pen, et la radicalisation de la démocratie vers disons, la réalisation de la justice sociale. Ce qui est en jeu vraiment dans la politique, pour moi, c'est comment on va construire le peuple et donner une traduction politique à toutes ces demandes qui existe aujourd'hui. On parlait du mouvement populiste.
Et lui donner la voix, parce que c'est vrai qu'avec Jean-Luc Mélenchon aussi, comme avec Marine Le Pen, on entend beaucoup la représentation de ce peuple, mais pas beaucoup le peuple lui-même. Donc c'est bien de se construire un peuple, mais à un moment, peut-être faut-il arriver à ne pas en permanence capter cette parole-là, non?
Non, mais attendez, c'est pas la parole qu'on capte, c'est les demandes. Il faut, parce que moi, c'est aussi quelque chose qui est important au point de vue théorique dans hégémonie sociale et stratégie. Nous mettons en cause l'idée d'essentialiste que les identités sont déjà données. Donc, par exemple, il y a tout aussi une réflexion sur la question de la représentation. Parce qu'en général, on comprend la représentation. Bon, il y a des idées, des identités ou des formes données. Et bon, la politique consiste à comment est-ce qu'on va les représenter. Alors, nous mettons en question ça, parce qu'on met en question l'idée que, justement, il y a des identités qui soient déjà données. Si on accepte que l'espace social est un espace discursif, elles sont construites. Et La représentation consiste aussi à construire des identités. Donc c'est pas ça, c'est un point dont on discute aussi avec Inigo et Régon dans le livre. Nous sommes toutes les deux tout à fait d'accord là-dessus. Il s'agit pas de représenter les intérêts qui existent déjà de manière essentialiste. Il faut les construire discursivement. Vous voyez, et c'est ça, à mon avis, qui est absolument fondamental.
J'aurais revenir. Peut-être au fond du ce que vous appelez le consensus au centre. On voit bien se développer ce populisme de droite. Vous prenez donc le développement en opposition à un populisme de gauche, mais il reste aussi la troisième voie, finalement, qui est celle de la voie consensuelle, la voie qu'on appelle parfois moderne, qui consiste à dire on sort du conflit pour créer une situation d'arbitrage, de nouvelle gouvernance, etc. Je voudrais savoir, c'est cette vision-là, pourquoi vous la récusez fondamentalement, et est-ce qu'elle est une idéologie, l'idéologie du néolibéralisme selon vous, et pourquoi est-ce qu'elle a intérêt à s'imposer?
Elle est définitivement l'idéologie du néolibéralisme, et je crois que ça explique aussi pourquoi aujourd'hui tous ceux qui défendent le consensus au centre taxent de populistes tous ceux qui mettent en question ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec le consensus au centre, alors vous êtes extrémiste et vous êtes populiste. Donc au fond, pour eux, c'est la façon de défendre l'ordre établi, c'est d'essayer de présenter comme populiste et comme antidémocrate, hein, de les mettre hors jeu de la lutte démocratique. Donc ça, c'est important.
Mais
pour répondre à votre question, il y a deux raisons pour lesquelles je critique le consensus au centre. Une raison théorique, parce que je crois que justement, en tant que théoricienne politique, je crois que les gens qui défendent cette idée qu'il n'y a pas de frontières ne comprennent pas la spécificité de la politique. Mais aussi une raison politique, parce qu'en fait, on voit très bien que cette politique de consensus au centre, comment elle a les conséquences qu'elle a eues. Écoutez, nous sommes aujourd'hui, je crois qu'on sera assez d'accord là-dessus, en Europe, on est face à une véritable crise de la social-démocratie. Hein. On voit par exemple l'Espagne, le PSOE, on a eu la pajokisation, récemment aux élections en Hollande, le parti socialiste s'est effondré, hein, parce que c'est curieux comme on parle beaucoup, il n'y a pas eu de Geert Wilders n'a pas gagné, on a arrêté le... Oui, sauf que le phénomène le plus important aujourd'hui en dernières élections hollandaises, c'est le fait que le Parti socialiste s'est effondré complètement. Et bon, on voit ce qui se passe en France. Nous sommes en train de voir une transformation politique très importante, justement, qui a à voir beaucoup avec la crise de la social-démocratie. Pour moi, la crise de la social-démocratie, c'est une conséquence du consensus au centre. Le fait qu'ils ont abandonné leur identité de gauche, ils ont accepté l'idée qu'il n'y avait pas d'alternative à la globalisation néolibérale, donc c'est là-dessus que centre-droit et centre-gauche s'entendaient. Ça veut dire que, finalement, il n'y a plus véritablement de politique. Ce qu'on appelle la politique, ce sont des domaines techniques. C'est aux experts à décider. Donc, le peuple, l'idée que je défends, que le moment populiste que nous vivons aujourd'hui, c'est une conséquence du fait que la souveraineté populaire, qui est tout de même au centre de l'idéal démocratique, a été abandonnée. Alors, s'il y a un ennemi que le néolibéralisme, c'est bien la souveraineté populaire, hein, parce qu'ils veulent imposer la souveraineté du marché, la liberté des entrepreneurs. Donc tout ce qui a à voir avec la souveraineté populaire, c'est quelque chose qui est vraiment complètement obsolète pour eux. Alors c'est intéressant de voir que nous sommes en train de vivre un moment où il y a de plus en plus revendications pour la souveraineté populaire.
Chantal
et ça, c'est une... Je voudrais juste terminer cette phrase. Donc, si vous voulez, ce moment populiste que nous vivons aujourd'hui, c'est une conséquence du consensus au centre. Le consensus au centre qui prétendait qu'on allait nous apporter une démocratie réconciliée, elle a conduit à l'émergence des mouvements populistes.
Merci beaucoup, Chantal Mouffe. Merci. Construire un peuple, radicaliser la démocratie. D'ailleurs, il y a un débat ce soir hein, pour ceux qui seraient parisiens. Bardi, oui, c'est bien aujourd'hui, 18h30, 20h, à l'Iris, avec Gaël Brustier, Jorge Lago, Chantal Mouffe, donc vous-même, et Christophe Ventura, animé par Fabien Escalona. On pourra vous y retrouver si vous êtes à Paris. Juste pour dire que cet ouvrage, Construire un peuple, est aussi intéressant parce qu'il permet de retracer l'ensemble de votre pensée à partir d'hégémonie et stratégie socialiste. Qui, rappelons-le, a été publié il y a plus de 20 ans. Vous constatiez déjà combien la gauche social-démocrate ainsi que la gauche marxiste traditionnelle s'était montrée incapable de comprendre la spécificité des nouveaux mouvements qui s'étaient développés depuis 68. Le féminisme, les mouvements écologistes, la lutte antiraciste, les mouvements contre la discrimination des homosexuels, ça a été un temps fort, un moment décisif pour vous et la construction de votre pensée. Et puis ça revient aussi sur votre inspiration marxiste avec ce livre de chevet qu'étaient les cahiers de prison d'Antonio Gramsci, comment vous avez donc échafaudé, construit votre pensée critique et notamment cette théorie de l'hégémonie que vous avez pu évoquer avec nous à l'instant. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. Merci à Perello Gras avec Anthony Thomasson, à Claire Maillot et Clémence Marie, Henri Leblanc et Nicolas Dutant, Coppelia Ménardi et Andrea Kinapi. Merci Antoine Mercier et merci Chantal Mouffe. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page de la Grande Table sur franceculture.fr.